les enfants de Cronos. Bonjour à tous, chers auditeurs, c'est moi qui vous parle, Nicolas Bilot, archéologue. Aujourd'hui, une petite notice historique sur le château d'Amblenay. À 10 km de Soissons, au sud de la route de Compiègne, et au carrefour des antiques voies de Soissons à Senlis et de Soissons à Noyon, le promeneur curieux a déjà pu poser ses yeux sur un fanal à l'allure surprenante, la tour du château d'Amblenay, classée monument historique en 1929. Après presque 100 ans de débats sur la datation de ce curieux objet architectural, le travail croisé d'un historien et d'un archéologue a permis d'affiner notre connaissance de l'édifice. Le village d'Amblenay est mentionné pour la première fois au XIe siècle et la tour pour la première fois en 1143, avec son seigneur qualifié de bâtisseur, Drogon de Pierrefonds. En réalité, il faut comprendre Dreux de Pierrefonds. Issu d'un lignage apparu dans les sources au XIe siècle, proche des rois et des grands barons, Dreux fait entretenir sa forteresse d'Amblenay, qui est la plus orientale de sa zone d'influence et qui est capitale pour le contrôle des routes et l'accès direct qu'elle permet à la rivière Aisne. Bien sûr, il arrivera au château d'Amblenay ce qui est arrivé à la plupart des places fortes de notre territoire. Elle sera réunie à la couronne par le puissant roi de France Philippe II Auguste vers 1192-1193. Alors ce château, qu'est-il exactement ? Une tour, dit-on déjà depuis plusieurs siècles. Située à quelques dizaines de mètres de l'église, il profite d'une petite éminence. Du strict point de vue de sa forme, il s'agirait d'un carré présentant à chacun de ses angles une tour circulaire en saillie. Il en ressort en fait, vu du ciel, un plan en trèfle, comme peu de sites en présentent. Concernant l'allure, elle est plutôt austère. Les ouvertures sont rares, les murs épais. Le couronnement manque, le château est décapité en quelque sorte, et les parements sont légèrement éclatés. Mais ce dernier point est dû au conflit de 1914-1918, qui n'a pas eu raison du solide château, bien qu'il ait été bombardé, alors que l'église et les maisons avaient tant souffert aux abords. Première remarque intéressante, on n'entrait pas dans la tour au rez-de-chaussée, mais directement au premier étage. Il existait en effet, à l'origine, une porte qui permettait d'accéder directement par un pont-levis à treuil simple à l'étage. A l'inverse, il n'existait aucune porte permettant d'accéder de plein pied depuis la cour. La porte actuelle est du XVIe siècle. À ce niveau, la salle intérieure est de forme octogonale, de 8 mètres sur 9, qui communique directement avec le pied de 3 des 4 tours par une arcade. Au centre, un puits de 8 mètres de profondeur assure à l'édifice l'autonomie prolongée en cas de siège. C'est par une échelle, très probablement, que l'on descendait donc au Moyen-Âge du premier étage à ce rez-de-cour, et un simple plancher les séparait. L'accès principal, nous l'avons dit, était donc au niveau supérieur, et l'on accédait à un couloir dans l'épaisseur du mur, d'environ 3 mètres, en quinconce, fermé aux deux extrémités par des portes. Seules les 3 fenêtres éclairent la salle principale, mais 3 fentes de tir desservent les tours, ce qu'on a appelé bien souvent des meurtrières. L'on trouve ici les vestiges d'un enduit blanc à faux joints rouges. Bien qu'il ne soit peut-être pas d'origine, il nous rappelle qu'il ne faut pas oublier que bien souvent la plupart des châteaux, au moins en ce qui concerne les parties nobles, étaient couverts d'un mortier de chaux ou d'un mortier de plâtre, et parfois d'ailleurs fort joliment. Passer du premier au deuxième étage était une aventure. Il y avait en effet à Amblenay un des dispositifs de circulation interne les plus curieux que l'on puisse voir dans un château de la France du Nord. Il fallait franchir 7 mètres pour monter d'un étage, puisque la hauteur du premier étage fait environ 7 mètres. La moitié se faisait par l'intermédiaire d'une échelle ou d'un escalier en bois, mais dont la pente devait être raide. Jusqu'à une petite tribune. Et la seconde moitié de l'ascension se faisait en profitant d'un escalier en vis étroit dans l'épaisseur des murs. Pour passer ensuite du deuxième au troisième étage, nous retrouvions un dispositif comparable mais inversé. Il fallait d'abord faire une moitié de la montée par un escalier en vis, puis une autre à l'aide d'un échelle ou d'un escalier droit. Qu'en pensez ? Eh bien, ce dispositif, pour ne rien vous cacher, laisse les spécialistes perplexes. Les uns usant de l'argument d'adaptation ou d'hésitation en cours de chantier par les maîtres d'œuvre, voire même d'amateurisme des maîtres d'œuvre, les autres préférant l'hypothèse de complexification volontaire des distributions et des circulations pour renforcer la défense interne de l'édifice aux dépens du confort. En l'absence de comparaison, il sera toujours bien difficile de se positionner sur cette question épineuse. Quoi qu'il en soit, à ce deuxième étage, haut de 8 à 9 mètres, signalons d'abord une porte depuis l'une des tours d'angle ouvrant sur un petit escalier menant au sas d'action du pont-levis de l'étage inférieur. Les dispositions générales sont complexes, mais conservées dans leur premier état, ce qui est un cas exceptionnel, mais je ne vous le cache pas, un petit peu difficile à décrire ici. Ensuite, à cet étage, la grande salle centrale s'ouvre uniquement sur deux tours, les autres étant murées, mais accessibles pour l'une d'entre elles par une porte dans la première, et probablement celle-ci constituait-elle la chambre. Elle est la seule voûtée en effet. La seconde, intérieurement carrée, accueillait des latrines. Pourquoi des dispositions si différentes entre chacune des tours ? Eh bien, l'une abritait vraisemblablement un oratoire, la seconde une chambre, nous l'avons dit, la troisième une pièce d'hygiène, et la quatrième peut-être simplement une alcôve en retrait, peut-être un lointain ancêtre du salon. Le troisième étage, malheureusement, a été décapité à la Révolution. Et il nous est tout de même connu par une vue de l'artiste Tavernier de Jonquière, un dessinateur, souvent très sérieux et réaliste, dont une partie de ses œuvres sont conservées au musée de Soissons, et je ne peux que vous encourager à aller les voir. Tavernier de Jonquière, donc, nous représente la tour plus haute encore qu'aujourd'hui d'au moins 7 à 8 mètres, et présentant de curieux mâchicoulis sur arc et un crénelage puissant. À l'intérieur, aujourd'hui, peu d'indices de toutes ces dispositions, malheureusement. Alors quoi ? Intéressante la tour d'Amblany ? C'est qu'il faut se rendre compte qu'il s'agit d'un des très rares exemples dans notre territoire de ce qu'on a appelé les donjons romans, c'est-à-dire cette première génération de tours maçonnées. Rare aussi dans sa forme atypique, tréflée, qui est un peu une transition entre le quadrangle, le carré ou le rectangle, et le cercle, entre la tour flanquée de tours secondaires et la tour isolée. Cette forme n'a pas fait école en fait, car elle n'était pas très efficace finalement, notamment défensivement. Et elle était assez complexe, donc assez coûteuse. Plus rare encore, cette tour est tellement bien conservée qu'elle en est probablement le plus bel exemple dans toute la France du Nord. Ce qu'il faut retenir également, c'est que, comme dans le cas du donjon quadrangulaire de Clermont, dont nous avons déjà parlé, le premier niveau est un espace essentiellement de stockage, avec un puits. Le second niveau, donc le premier étage, par où chacun entrait, était probablement une salle de réception publique, une aula, comme je l'ai déjà expliqué, une grande salle. Le troisième niveau, donc le deuxième étage, était probablement un espace résidentiel seigneurial, un espace privé, avec chambre, latrine et chapelle. Il y manque tout de même une cheminée, mais nous pouvons vraisemblablement imaginer que le seigneur se satisfaisait d'un poêle ou d'un foyer dallé central, d'autant que la grande hauteur sous plafond permet un bon renouvellement de l'air. Tout ne fonctionne tout de même pas bien, notamment à cause des choix curieux, mais justifiables, de circulation verticale discontinue, ce que nous avons expliqué avec le passage d'échelle à escalier en vis. Ce que l'on doit garder en mémoire, enfin, c'est la particularité de ce niveau sommital malheureusement disparu, aveugle, ou presque aveugle, surmonté peut-être d'une terrasse crénelée, assurant quasiment seule la défense de cet édifice aux allures si militaires et finalement peut-être si peu fonctionnelle. Preuve en est d'ailleurs que l'on ajoutera plus tard des bretèches, c'est-à-dire des petites constructions extérieures encastrées dans les parements pour compléter la défense. Terrasse crénelée dont on peut se demander finalement si, en plus du caractère ostentatoire intrinsèque, elle ne servait pas d'abord de point de guet ou d'observation pour les routes de Soissons à Senlis et à Noyon, et pour la vallée de l'Aisne. Pour reprendre ce qu'en disait Denis Roland dans son article qui a fait date, l'architecte d'Amblany, sans doute trop imprégné par les traditions romanes, s'est contenté de copier et assembler quelques idées nouvelles sans véritablement les comprendre. Le constructeur, quant à lui, maîtriser parfaitement son art. Et finalement, un château ne peut-il être qu'une tour ? Oui, ça arrive, mais pas ici. À Amblenie, autour de la tour, à l'origine, existait une enceinte, une cour et même une annexe. L'enceinte était pentagonale, flanquée d'au moins deux tours à l'ouest et de deux autres qui encadraient l'entrée qui, elle, faisait face à l'église. L'annexe n'était vraisemblablement qu'une écurie, une dépendance. Le château n'était pas bien vaste, il est vrai, mais il restait une belle bâtisse qui contrôlait l'église et l'entrée du village. N'oublions pas qu'il s'agissait là d'une des forteresses des Sires de Pierrefonds, probablement leur deuxième plus beau château au XIIe siècle et un édifice remarquable que je ne peux que vous inviter à visiter.